Aimer un traître, le pourrais-tu ? Comment répondriez-vous à cette question ? Pour certains, la réponse est catégorique. Non. Pour d'autres, peut-être oui, mais cela dépend de l'intensité de la trahison. Vous savez, la trahison, et je pense que je ne vous apprends rien, est l'une des blessures les plus douloureuses. Car elle ébranle profondément la confiance en l'autre, en soi-même, parfois. Et ça peut même arriver que cela ébranle la confiance même en la vie. Elle laisse des cicatrices durables sur le plan émotionnel et psychologique. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de trahison ? La trahison, c'est lorsque quelqu'un en qui l'on a confiance ou que l'on aime agit d'une manière qui nous blesse ou nous déçoit profondément. Un traître brise ce lien de confiance de façon injuste et douloureuse par le mensonge ou l'abandon, laissant derrière lui une blessure émotionnelle profonde. Un traître trahit l'amour, l'amitié, la loyauté ou un engagement moral. La personne trahie en subit les conséquences. Douleur, sentiment d'injustice, colère, tristesse et parfois même honte, solitude ou perte de confiance en soi. Ça mène loin, n'est-ce pas ? Comment réagir face à une trahison ? Pour répondre à cette question, nous allons nous plonger dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, où Jésus partage son dernier repas avec ses amis proches, ses disciples. C'est à ce moment-là qu'il se retrouve face à celui qui va le trahir. L'attitude de Jésus dans cette situation est bizarre. Elle est difficile à comprendre, mais en même temps remarquable. En étudiant son comportement, nous découvrirons une réponse à la trahison qui dépasse toute logique humaine. Et ce moment nous aidera surtout à admirer le cœur de Jésus, à l'aimer encore plus profondément. Comment réagir face à une trahison ? Malgré la trahison de Judas, voici ce que Jésus fait. Premièrement, Jésus exprime l'amour. Ah bon ? Devant la trahison, Jésus exprime l'amour. Je vais lire donc le Jean chapitre 13 et nous allons lire les versets donc 1 à 5. Je cite. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'est au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis, à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. On s'arrête là. Jésus, il est dit dans ce texte, va mettre le comble à son amour. Il va jusqu'au bout de son amour pour ses disciples. Il révèle un amour sans limite. Il leur donne une preuve ultime de son amour, un amour sans limites extrême, un amour parfait. Et pour le leur montrer, il pose un geste choquant à l'époque, pour un maître. Très humble, très très humble, mais puissant. Il lave les pieds de ses disciples. Laver les pieds de quelqu'un n'est pas courant dans notre culture, peut-être, mais c'était quelque chose qui se faisait et n'avait pas les chaussures comme nous à l'époque, hein. Souvent en sandales, et donc les pieds pouvaient être souvent sales. Et là, on voit Jésus qui donc lave les pieds de ses disciples et il faut savoir une chose, c'est que cette tâche était réservée aux esclaves, aux personnes les plus humbles de l'ordre social à l'époque. Car c'était un acte très modeste, désagréable. Cela a profondément choqué les disciples. C'est un maître, il ne peut pas faire ça. On pourrait penser que Jésus réserve ce geste à des disciples fidèles, solides dans leur foi, extraordinaires. Mais non. Jésus lave les pieds de ceux qui vont bientôt l'abandonner. Il le sait. Il lave les pieds de l'un d'eux qui va le renier. Il le sait. Il le dira un peu plus tard. Et on pourrait aussi imaginer qu'il attend le départ de Judas pour accomplir cet acte d'amour. Et non. Il lave aussi les pieds de Judas qui va le trahir. Il le sait, il sait tout, et pourtant il choisit d'aimer. L'amour de Jésus dépasse l'entendement ici. Il aime jusqu'au bout, même ceux qui vont l'abandonner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Jésus montre aussi cet amour envers celui qui va agir en ennemi. Mes amis, Judas n'a jamais été pleinement engagé envers Jésus. Je vous apprends peut-être quelque chose là. Même s'il faisait partie des disciples, son cœur était partagé, n'était pas entièrement pur. En fait, pas du tout. Dès le début, Jésus savait qu'un des siens allait le trahir. Dès le début de son ministère, en Jean chapitre 6, verset 70, il dit « L'un de vous est un diable. » Il commence son ministère. On est dans le début, Jésus dit déjà ça. Il ne nomme pas Judas, et heureusement, probablement pour ne pas troubler la foi des disciples, mais il savait déjà ce qui allait arriver. En Jean chapitre 12, verset 6, on découvre un autre aspect du cœur de Judas. Il était voleur, nous dit ce texte. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Wow ! Il gardait pour lui ce qu'on y mettait ? Judas aimait l'argent. Aïe, aïe, aïe ! Il avait la responsabilité des finances du groupe. C'était le trésorier, mais il volait dans la caisse. Pendant 3 ans, il a entendu certainement plusieurs fois Jésus enseigner que l'amour de l'argent est un piège. Mais il a fermé son cœur. Il a endurci son cœur. C'est cette cupidité qui l'a conduit d'ailleurs à trahir son maître. Depuis longtemps, Judas marchait déjà dans le péché. Il suivait Jésus, non par amour, mais dans l'espoir d'en tirer un avantage personnel. Il voyait en Jésus, comme plusieurs de son époque, un messie puissant et pensait que le royaume de Dieu lui apporterait richesse et pouvoir. Ce royaume viendrait tout de suite. Il est là. En plus, je suis un VIP, je suis à côté de lui. Je suis son ami. Je serai riche. Mais plus il avance et plus il voit Jésus et plus il comprend que ça n'a pas l'air d'aller dans la direction que j'avais prévue. Et nous, ce matin, pourquoi suivons-nous Jésus, pour nous qui sommes chrétiens? Pour qu'il bénisse notre vie? Pour obtenir quelque chose de lui, pour que nous ayons ce que nous voulons? Attention. Suivre Jésus pour ce qu'il donne et non pour ce qu'il est, c'est un danger. Ce n'est pas la véritable foi chrétienne. Quand on place notre foi en Jésus, il devient le sauveur, mais aussi le Seigneur de notre vie. Le maître. Si Jésus n'est pas le véritable maître de notre vie, s'il ne règne pas en nous, alors nous suivons Jésus pour de mauvaises raisons. Je le redis. Si Jésus n'est pas le maître de notre vie, alors nous le suivons pour de mauvaises raisons. L'histoire de Judas nous met en garde également contre l'aveuglement causé par l'amour de l'argent. En poursuivant ses ambitions personnelles, Judas a perdu de vue la véritable valeur de Christ. Christ est Dieu sur terre. Tu l'as vu pendant 3 ans, des choses extraordinaires. Mais ce que tu veux, c'est les sous, c'est l'argent. Alors que tu as Dieu en personne qui est devant toi. Il a perdu de vue sa beauté, son amour infini, sa grâce, sa grandeur, sa souveraineté. Comment a-t-il fait ? L'amour de l'argent, attention à l'amour de l'argent. Non seulement pour nous, mais nous remarquons bien, face aux grands de ce monde, souvent, très souvent, les décisions peuvent être prises à cause de l'amour de l'argent et du pouvoir. Attention à l'amour de l'argent. Dans notre passage, Judas a déjà pris sa décision. Il a accepté de livrer Jésus. C'est lui qui lance donc le processus qui mènera à la crucifixion. Et le pire, on l'a compris, on l'a entendu, c'est un proche de Jésus. Et cette proximité rend sa trahison encore plus terrible. Beaucoup disent que c'est l'un des gestes les plus terribles de l'histoire, les plus horribles. Jésus prononce ces mots effrayants à propos de Judas en Matthieu chapitre 26, verset 24. Malheur, enfin il commence comme ça, il était voleur, non, sur le ah tu l'as pas, Matthieu 26. Voilà, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit, il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. Pourtant, Jésus lave les pieds de ses disciples, y compris ceux de Judas, comme un signe d'amour extrême, de service et d'humilité. Même face à la trahison imminente, il persiste à le servir, démontrant ainsi que l'amour doit toujours dépasser le mal. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus annonce également quelque chose de fort. Cela symbolise sa mort. Par ce signe, il montre par là qu'il offrira la purification à ceux qui croient en lui. Mes amis, Jésus nous appelle à nous laver les pieds les uns des autres. Et je vous rassure, non de manière littérale, mais dans l'esprit qu'il exprime. S'aimer profondément et se servir mutuellement avec humilité. Cela nous enseigne que même face à des personnes difficiles à aimer ou à celles qui nous ont trahis, nous devons répondre par l'amour et l'humilité. Aimer quelqu'un qui nous a trahis, c'est choisir de ne pas répondre par le mal quand il nous a fait le mal, mais répondre par le bien. C'est prier pour cette personne, lui souhaiter du bien malgré ce qu'elle a fait. C'est continuer à lui parler avec respect lorsque l'occasion se présente, sans nécessairement renouer la relation. Aimer après une trahison demande, vous comprenez, une force qui dépasse nos capacités humaines. C'est pour cela que nous devons chercher Dieu et lui demander sa force pour surmonter cette épreuve avec l'amour. Jésus a dit, juste après tout cela, après toute cette histoire, dans le verset 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et là, quand vous entendez maintenant ce texte, ça donne un autre éclairage. Quand on se dit, il a dit ça, quand il a aimé Judas. C'est tout autre chose là d'un coup. Le sens est beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Ce commandement est nouveau parce qu'il dépasse l'ancien qui disait d'aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, nous devons aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Donc, cela veut dire aimer les autres en nous sacrifiant pour les autres. Et aussi aimer celui qui ne nous aime pas. Être capable d'aimer jusque-là. Comment réagir maintenant? On va voir notre deuxième point. Comment réagir face à la trahison? Malgré la trahison de Judas, Jésus révèle la vérité. On peut voir la suite. Alors on saute et on arrive au verset 21 jusqu'à 30. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples déconcertés se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il ? » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui était à table, ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Heureusement d'ailleurs. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Nuit dehors, mais certainement nuit dans son cœur. On s'arrête là. Annoncer qu'il y a un traître parmi les disciples, c'est un choc. Cela a dû rendre l'ambiance lourde. Les disciples, surpris et confus, commencent à se demander « Mais qui parmi eux pourrait être celui qui va trahir Jésus ?» Ils se regardent choqués, sans savoir de qui Jésus parle. Et la tension monte. Chacun se demande « Est-ce moi ?» Il est important de souligner que aimer un traître ne veut pas dire ignorer sa faute. Jésus n'a pas minimisé la situation, il n'a pas caché la vérité, au contraire, il a été direct et a clairement nommé la trahison. Quelqu'un va me trahir. Jésus ne prononce pas ces mots sans être affecté. Au contraire, il est profondément touché intérieurement. Le terme utilisé ici exprime une grande émotion comme l'horreur, l'anxiété, l'agitation. Cela montre l'humanité de Jésus et la profondeur de sa douleur face à la décision de Judas. Il ressent profondément la souffrance causée par la trahison de son ami. Jésus n'a pas hésité à dénoncer le mal et la personne qui allait le commettre, le révéler. N'a pas ignoré la réalité. Cela nous montre qu'il est important de dire la vérité à la personne qui nous a trahis, même si cela est difficile. Avant de parler à la personne, commençons à être honnêtes dans la présence de Dieu. Disons à Dieu que ce que nous ressentons sans crainte d'être jugés par Dieu. Dieu comprend notre douleur face à la trahison. Dieu est là, il veut nous écouter. Il veut nous aider, il veut guérir nos cœurs blessés. Et quand nous sommes prêts à aller vers l'autre, allons voir cette personne qui nous a trahis et exprimons-lui la vérité, mais avec amour. Faisons-le non pour blesser ou accuser, mais pour rétablir la paix. Cela peut aussi aider cette personne à ne pas refaire la même erreur. Soyons calmes et honnêtes. Exprimons nos émotions. Disons-lui comment sa trahison nous a affectés, sans agressivité, mais avec un cœur sincère. Et si nous sentons que nous perdrons le contrôle en venant devant cette personne pour parler de cela, demandons à quelqu'un de nous accompagner pour vivre ce moment. Dire la vérité, c'est aussi chercher à comprendre pourquoi la personne nous a trahis. Et donc cela est nécessaire aussi d'être prêt à écouter. Judas voit les gestes d'amour de Jésus, entend la vérité qui lui est révélée pour qu'il fasse le bon choix. Mais il refuse ce geste d'amour. Il laisse Satan entrer dans son cœur à travers son choix. Et Jésus, voyant que le cœur de Judas est définitivement fermé, comprend que tout est décidé. Il lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Et j'ai l'impression que Jésus est en train de dire ça non seulement à Judas, mais au diable. Toi là, je te vois derrière, fais ce que tu as à faire. Mais quelque chose est très encourageant ici. Par ces mots, Jésus montre qu'il est maître de la situation. La crucifixion n'est pas un accident, les amis. Elle fait partie du plan de Dieu. C'est l'accomplissement des Écritures, des prophéties. Jésus choisit délibérément de donner sa vie. Rien ne peut empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Même la trahison de Judas s'inscrit dans ce plan divin pour le salut de l'humanité. Mes amis, dans cette période d'insécurité mondiale où des décisions importantes doivent être prises, rappelons-nous que Dieu n'est jamais dépassé. Même lorsque les gens pensent avoir le contrôle, en réalité, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Dieu a le contrôle total sur les événements. Cela devrait nous rassurer, non seulement dans les moments de trahison, mais aussi dans les périodes de crise. Peu importe ce qui se passe, même dans le pire des scénarios, Dieu a le dernier mot. Aucune trahison, aucune méchanceté humaine ne pourra jamais contrecarrer ses plans. Troisième et dernier point, comment réagir face à une trahison? Malgré la trahison de Judas, Jésus choisit le pardon. Jésus a déjà lavé les pieds de ses disciples, mais il va encore plus loin dans son amour envers Judas. Quand Jean lui demande qui va le trahir, vous l'avez entendu, Jésus dit au verset 26, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Ça ne nous dit rien à notre époque. Mais Judas déjà était assis à côté de Jésus, ce qui était à l'époque une place d'honneur. En plus, il reçoit de sa main le pain, qui était à l'époque un geste culturellement chargé de signification, un signe d'amour, un signe d'honneur, un signe d'amitié. Jésus offre ainsi à Judas une dernière preuve de son amour, même s'il sait que ce dernier allait le trahir. Par ce geste, Jésus l'honore et lui témoigne de sa bonté, de sa miséricorde. Il aime Judas jusqu'à la fin. Jésus aime Judas jusqu'à la fin. Même si le mot pardon n'est pas mentionné directement dans ce passage, l'attitude de Jésus montre clairement qu'il veut pardonner. Il offre une chance à Judas de se repentir. Jésus lui montre, tu ne m'obligeras pas à te haïr, je t'aimerai jusqu'au bout. Je t'aimerai jusqu'au bout. Le pardon, selon Jésus, n'est pas là pour excuser le mal, mais pour conduire les gens à reconnaître leurs fautes devant Dieu et à un changement de vie qui reflète l'amour. Jésus veut offrir le pardon à Judas, mais celui-ci doit l'accepter par la repentance et par la foi en lui. L'amour et l'humilité de Jésus sont révélés de manière puissante ici. Jésus nous enseigne à pardonner même à ceux qui nous trahissent. Et ce n'est pas un donneur de leçons qui nous dit ça. Il l'a fait lui-même. Attention à l'amertume qui peut vraiment ronger nos cœurs. Si nous avons été trahis, il est important de ne pas céder à l'amertume. Sinon, de ne pas demeurer dans l'amertume, car elle ralentit le processus de guérison dont nous avons tant besoin. Petit rappel sur le pardon. Pardonner, je sais, quand vous entendez cela, et pour ceux qui sont passés par la souffrance, il est difficile d'entendre ce mot. Pardonner, ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas minimiser la gravité de la faute. Ce n'est pas poser des conditions. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas un acte égoïste pour retrouver simplement notre paix intérieure. Ce n'est pas attendre que l'autre se rachète. Le véritable pardon ne se limite pas aux mots. Il se traduit aussi par des actions et une transformation intérieure. Pardonner commence par renoncer à la vengeance, les amis. Lâcher prise sur la rancœur. Ne plus attendre que l'autre fasse ceci ou cela. Choisir de ne plus laisser la trahison empoisonner notre présent. Le pardon est souvent difficile, mais il est nécessaire pour guérir et rétablir la relation. Nous pouvons vivre le pardon déjà dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, cette personne m'a blessé pour ceci, pour cela. Mais aujourd'hui, je choisis de lui pardonner et de ne plus retenir, de plus revenir sur sa faute. » Ensuite, en étant face à la personne, nous devons aussi exprimer ces mêmes paroles. J'ai été blessé parce que, et on dit ce qui nous a blessé, mais aujourd'hui je te pardonne. Où trouver la force de pardonner? Une bonne question. La force de pardonner, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, vient d'abord de la présence de Dieu. Prions sincèrement pour que Dieu nous aide à pardonner, car c'est par la puissance de Dieu que nous pouvons dépasser notre douleur et choisir le pardon. Nous pouvons aussi puiser notre force, deuxièmement, dans la grâce de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci dans Colossiens chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Ce verset nous rappelle que notre pardon doit refléter celui que Dieu nous a accordé en Christ. Chaque fois que nous avons du mal à pardonner, prenons un moment pour méditer sur la manière dont Dieu nous a pardonné. Son amour et sa grâce infinie peuvent vraiment nous fortifier, fortifier notre cœur et nous rendre prêts à pardonner, nous donner la force de pardonner. Nous pouvons aussi trouver la force en étant entourés par un frère, une sœur chrétien, une personne de confiance, un conseiller spirituel qui peut nous accompagner et nous soutenir dans ce processus difficile. Et enfin, si la douleur est trop intense, il est parfois utile de consulter un professionnel de santé, thérapeute, peut nous aider à surmonter cette épreuve en nous apportant des outils pratiques tout en restant ancré dans les valeurs chrétiennes. Bien sûr, je parle ici d'un professionnel chrétien. J'aimerais ajouter quelques précisions. L'amour et le pardon ne signifient pas que tout soit instantané. La confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas du jour au lendemain. Souvent, les personnes, pour celles qui ont vécu des trahisons profondes, ça a pris bien plus d'un an. C'était long. Donc, nous devons comprendre cela ce matin. Il est important aussi de discerner si la relation peut être restaurée ou si des distances sont nécessaires. Je le dis et je le souligne, parce qu'en tant que chrétien, on peut penser que puisque nous devons aimer, on doit rester avec celui qui nous a blessés. Non. Il se trouve que Jésus l'a fait avec Judas, mais je pourrais vous nommer plein de noms de personnes où Jésus n'est pas resté, mais il est parti. Jésus n'est pas tout le temps resté. Parfois, même au sein des relations chrétiennes, on se retrouve dans des relations toxiques. J'en ai entendu plusieurs fois. Ce sont des relations, quand on parle de relations toxiques, ce sont des relations destructrices ou des comportements négatifs qui affectent le bien-être d'une personne. Et dans ces cas, il est important de prendre ses distances et de se protéger. Il y a des gens pour qui il vaut mieux changer de travail, sinon leur pensée, leur santé va passer. Ils vont sombrer. Il y a des personnes qui doivent couper totalement une amitié, pourtant avec une personne chrétienne, mais parce qu'il s'est passé une chose qui fait que la relation est toxique. C'est vrai, ça existe. Et nous devons faire attention à cela et se protéger. Après une trahison et avoir vécu le pardon, il est important d'exprimer clairement nos attentes pour savoir comment avancer. Parce que quand on demande pardon, il s'arrive qu'on soit encore dans le flou. Et ne laissons pas de flou. Mettons les choses au clair. Comment on agit maintenant? Qu'il s'agisse de rétablir peut-être la confiance. Je veux rétablir la confiance avec toi. Et je veux qu'on avance dans la relation ensemble. Ou d'établir des limites, parce que nous sommes conscients qu'on ne peut pas aller plus loin. Le pardon ne signifie pas revenir à la situation d'avant aussi. Certains pensent que si j'ai demandé pardon, si j'ai pardonné, normalement, puisque je suis chrétien, je n'ai plus aucune douleur et je peux vivre maintenant la relation d'avant. C'est-à-dire, on était les meilleurs amis du monde, maintenant on est encore les meilleurs amis du monde. C'est rare que j'ai vu ça dans la réalité. Cela peut aussi impliquer d'accepter que la relation est changée et qu'il faille poser, donc, je le répète, des limites pour permettre aussi la guérison. Je conclus. Il faut reconnaître que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous trahi Dieu. Judas a trahi Jésus. Parce qu'il a estimé que quelques pièces d'argent valaient plus que son roi. Cela nous révèle l'essence du péché, en fait. Désirer quelque chose plus que Dieu. Croire qu'une chose nous apportera plus de joie que Christ lui-même. En tant que chrétiens, nous ne vendrions pas Jésus pour 30 pièces d'argent. Quelqu'un le ferait ici? On se dit non. Mais chaque péché est comme un échange que nous mettons Jésus de côté pour autre chose. Chaque péché est comme un échange où nous mettons Jésus de côté pour la convoitise, pour le mensonge, pour la paresse, pour l'orgueil, pour la jalousie, pour la colère et d'autres choses. À chaque péché, nous détournons nos regards de Jésus pour nous concentrer sur ce qui nous éloigne de lui. Cependant, Christ continue de nous aimer profondément. Il est toujours prêt à nous pardonner, à nous transformer. Alors mes amis, puisque Dieu nous aime tant, aimons, disons la vérité avec amour et pardonnons à ceux qui nous ont trahis et fait du mal. Et cela avec la puissance de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci pour ton amour infini et ta grâce qui nous dépasse. Tu es si admirable dans ta manière d'aimer, même Judas qui t'a trahi. Aide-nous à suivre ton exemple face à la trahison, à aimer malgré la douleur, à dire la vérité avec sagesse et amour, et aussi à choisir le pardon. Notre Dieu, si certains parmi nous portent encore des blessures d'une trahison, viens guérir leur cœur maintenant. Donne-leur ta force, la force d'aimer, la clarté pour dire la vérité et le courage de pardonner. Nous te prions aussi pour ceux qui se trouvent dans des relations toxiques. Aide-les à discerner ce qui est juste, à poser des limites saines et à prendre leurs distances, les distances nécessaires pour ne pas se briser eux-mêmes. Seigneur, je prie pour celles et ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en toi, qui ne sont pas encore sauvés. Et je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur ce matin aussi et qu'ils puissent réaliser ce matin à quel point tu les aimes et que tu as tout accompli à la croix pour qu'ils puissent être sauvés, libérés de leurs péchés, de leurs fautes, de leur désobéissance à ta loi, pour expérimenter pour toujours ta présence. Qu'ils mettent leur confiance en toi. Révèle-toi à eux. Notre Dieu, fait de nous une église où règne l'amour, l'humilité et le pardon à l'image de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, amen.